Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Pascal Diby, bonjour.
Bonjour.
Pascal Diby, vous êtes donc nous sommes ici au Festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo et Pascal Diby, vous êtes ethnologue, vous avez été maître de conférence à l'université Paris 7 Diderot.
Je suis professeur depuis longtemps et même à la retraite.
Vous avez écrit de nombreux ouvrages pendant toute votre carrière et vous continuez à en écrire, notamment Ethnologie de la porte, Ethnologie de la chambre à coucher et votre dernier ouvrage qui s'intitule Ethnologie du bureau. Vous pratiquez une ethnologie justement du quotidien dans nos sociétés contemporaines. Pourquoi tout simplement avoir choisi cet objet, cette ethnologie du bureau qui a été publiée en 2020, me semble-t-il, chez Métayer. Pourquoi avoir tout simplement choisi cet objet de recherche?
En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la banalité du quotidien. L'ethnologue, c'est ça, c'est vivre avec les gens, c'est partager du temps avec eux. Et notre objectif, c'est quand même de restituer cette société dans laquelle on est. Et pendant très longtemps, même jusqu'à la fin de ma carrière, j'ai enseigné l'ethnologie du monde moderne. Donc j'ai essayé de comprendre, la complexité de nos activités simples. Et plutôt que de traiter des fêtes traditionnelles, du folklore habituel, des grands moments de passage dans les sociétés plus conventionnelles, je me suis dit que si on arrivait à se lever tous les matins et à partir, soit travailler ou soit ne rien faire d'ailleurs, c'est qu'il y avait bien quelque part une complexité qui était là. Et je me définirais assez comme un spécialiste de la complexité en milieu simple. C'est-à-dire vraiment notre société, effectivement, où on a le sentiment, en tout cas on y vit, donc ça veut dire qu'on résiste au rythme qu'on s'impose, au système de rencontres, etc. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de prendre un objet et de voir comment il a évolué. Et d'une certaine façon, d'un objet, j'en fais un sujet. Alors, effectivement, mon anthropologie, elle est d'une simplicité élémentaire, mais presque, je dirais, comme notre vie, d'une certaine façon. Et j'ai commencé par me poser la question d'une de nos activités principales qui occupe un tiers de notre vie, j'ai bien dit un tiers de notre vie, qui est de dormir. Et il se trouve que les ethnologues ne s'étaient pas penchés sur la chambre à coucher et sur les choix de couchage qui ont été faits en fonction des cultures, par rapport à des besoins physiologiques semblables, qu'on soit en Nouvelle-Guinée ou qu'on soit à Paris ou à Londres, on dort. Mais par contre, on fait des choix de couchage complètement différents qui impliquent des systèmes de domestication animale ou végétale ou complètement différents. Et là, une fois de plus, je me suis penché sous mon lit pour voir comment il était fait. Je me suis rendu compte qu'on utilisait des objets sans savoir d'où ils venaient. Et qu'en réalité, ces objets, évidemment, n'avaient pas cessé d'évoluer, comme la langue et d'autres choses, parce que, en fait, ça marche par contact. Et qu'on ne pouvait pas imaginer, avant les croisades, de commencer à mettre des coussins sur les lits, avoir des matelas, qui vient de l'arabe matras, etc. Ça a été donc rapporté vers le 11e, 12e siècle. Un confort oriental s'est imposé en Occident, etc. Mais on a souvent des visions toutes faites du monde, on croit que les choses ont été inventées par nous, mais pas du tout. Et finalement, me penchant sur le lit, ben finalement, il y a des sociétés à couettes, il y a des sociétés à hamacs, il y a des sociétés à paillasses, il y a des sociétés où les gens dorment directement sur la terre, etc. Donc ça devient des choses extrêmement complexes. De la même façon que de dormir, il y a des sociétés avec des oreillers durs, des sociétés à oreillers mous, et il y a des raisons à chaque fois à cela. Alors oreillers durs, ça va être les sociétés à coiffe. Notamment une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique, où faire une coiffure, c'est une élaboration artistique. On met plusieurs heures à la construire, on la garde au moins un mois ou deux. Donc on ne la défait pas dans la nuit, on dort sur une bûche ou sur un appui-nuque particulier. Par contre, nous, occidentaux, on est plutôt une société à oreiller mou, pardon, parce qu'on est, décoiffé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas des coiffures suffisamment alambiquées. Donc on peut, comme on dit, dormir en cheveux la nuit et se coiffer le matin. Donc ça paraît des choses complètement secondaires, mais ce n'est pas vrai, c'est très important. Même dans Montaigne, le premier mot utilisé pour cet oreiller particulier, qui a été le traversin, eh bien, c'est Montaigne qui l'utilise donc très tardivement pour des histoires de confort. Notre problème, c'est la course au confort, hein, d'une certaine façon. Donc après avoir dormi dans cette chambre et avoir fait un travail sur les façons de dormir dans le monde entier et dans nos sociétés, je me suis dit, mais il y a quelque chose auquel on ne pense pas, c'est comment on sort de chez soi. Et là, je me suis rendu compte, simplement en commençant à m'observer moi-même, qu'on passait plus de 200 fois une porte par jour. Et qu'en fonction de la porte, on avait des attitudes, on prenait des précautions complètement différentes, qu'il y avait des systèmes d'entrée, des systèmes de sortie qui étaient vraiment incroyablement codés, une fois de plus, en fonction des cultures. Et donc, je suis parti comme ça, nous observer nous-mêmes, certaines façons, sur les façons d'entrer, sur les façons de sortir. Et ça a donné un objet de 500 pages sur comment rentrer et sortir. Et mon interrogation commençait effectivement par le fait que dans les salles obscures, il y a toujours « sortie » qui est écrit, ou un signal vert, maintenant là, traduit en couleur, si je puis dire. Et « sortir », ça vient du latin « sortirare », c'est-à-dire « attention, au-delà de cette limite, vous risquez de tomber sous le coup des sortilèges ». Donc c'est-à-dire qu'on prend un risque énorme à sortir de chez soi, et effectivement il y a un objet qui nous protège de l'extérieur, c'est le seuil. Le seuil, il est tellement chargé qu'il nous surveille constamment. Et ça donne des attitudes tout à fait amusantes. Je ne sais pas, par exemple, je vous donne un exemple. C'est, vous connaissez sans doute le film d'Hitchcock, Fenêtre sur cour, qui commence par un type qui s'est cassé la jambe, qui reste dans son immeuble, qui regarde par la fenêtre et qui se nourrit de l'histoire des autres. Et il voit rentrer un couple dans un appartement du dessous. Et le type, bon, il dit, traduction du spectateur, c'est des amants. Et puis ils se reprennent, ils ressortent, et le type rentre avec la femme dans les bras. Donc, traduction, ils viennent de se marier, parce que sinon, ils ne l'auraient pas prise dans les bras. Et ça, c'est l'héritage d'une tradition hellénistique très ancienne qui fait qu'en fait, le seuil était tellement jaloux de celui qui rentrait qu'il fallait rentrer en clandestin à l'intérieur de la maison. Et la femme qui rentre dans la domesticité, à l'intérieur, dans l'oikos, à l'intérieur de la maison, il faut que le seuil ne s'en aperçoive pas. Mais toute personne qui sort ne le gêne pas, mais toute personne qui rentre, il faut qu'il la contrôle. Et donc, on a comme ça des choses qui ont l'air amusantes, simples. Et en réalité, quand on réfléchit que ça remonte à des millénaires, on se dit quelle complexité chez l'homme de s'inventer des stratagèmes contre lui-même ou pour lui-même. C'est des systèmes de protection. Mais donc, moi, à chaque fois, ça m'émoustille, ça m'amuse, ça m'émeut. Il y a plein de choses comme ça. Et en travaillant sur la porte, vous avez mille choses aussi qui sont là. Par exemple, la politesse implique qu'on ne claque pas une porte par rapport à ceux qui habitent l'endroit, etc. En réalité, c'est un vieil héritage latin où, au moment de l'upercule, on faisait très attention. C'est le moment où les morts en profitent pour revenir. Et notamment, les morts se cachent toujours dans les gonds des portes. Donc, pour ne pas faire tomber l'esprit des morts de la porte, il ne faut pas la claquer, sinon on risque de mettre en l'air l'harmonie. Donc, vous voyez, ce sont des toutes petites choses comme ça, mais quand vous commencez à les regarder de près, vous vous rendez compte que tout est comme ça. On n'arrête pas d'inventer des systèmes, je dirais, de pivotement du sacré dans un quotidien qui a l'air complètement hors pression. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est des constructions tout à fait extraordinaires. Donc, de la même façon, les portes n'ont jamais été faites pour être fermées. Elles ont toujours été ouvertes. Et la porte ne se ferme que de l'intérieur. Elle se barricade de l'intérieur. Mais avec les systèmes d'urbanisation, la vie sociale s'est développée. Les maisons se sont un peu vidées des systèmes, je dirais, polynucléaires. On avait toujours un cousin, des gens. Il y avait tout le temps quelqu'un dans les maisons par rapport justement aux voleurs. Et puis, au bout d'un moment, on a commencé à changer les systèmes architecturaux. On est passé de la maison à l'appartement, un héritage italien, appartamento. Et on a commencé à habiter donc en horizontal, etc. Et on a commencé à sortir dans la ville, à sortir en ville. Et la serrure n'ouvrait que de l'extérieur. Parce qu'une porte s'ouvre, elle ne se ferme pas. C'est-à-dire que vous sortez, vous ouvrez la porte de l'extérieur vers l'intérieur. Mais à l'intérieur, on barricade la porte. Et la double entrée de la serrure n'est apparue qu'au XVe siècle, au moment où on a eu besoin, effectivement, on a tellement utilisé la porte qu'il fallait simplifier les passages. Donc voilà encore des petits phénomènes comme ça. Bon, je peux vous en parler pendant des heures. Mais donc, à chaque fois comme ça, je prends un objet, je ne suis pas sûr de mon coup. Enfin, je veux dire, il s'impose de lui-même. Hein. Je n'ai jamais eu l'idée de faire un coup. Ça n'a jamais été comme ça. Et puis, j'ai continué dans mes recherches comme ça. Et je me suis dit, mais dans le fond, quelle culture est-ce qu'on est ? Eh bien, on a des horaires étranges. Enfin, je sais pas, on s'arrête pour déjeuner à midi, on recommence à 2 heures. Personne n'oserait aller à la préfecture à midi frapper en disant « comment ça, vous êtes fermé ?» C'est-à-dire que la culture bureaucratique a tellement envahi et rythmé notre vie depuis une période très récente, hein, c'est le 18e siècle, que je me dis « mais voilà, on est d'une culture du bureau », c'est-à-dire que tout notre système, notre rythme, je dirais, urbain, c'est basé sur la bureaucratie. Et effectivement, en regardant, on découvre que le bureau est apparu très tardivement à la fin du règne de Louis XIV, enfin c'est plutôt sous Louis XV, et on a commencé effectivement à avoir l'idée que l'administration pouvait être une production. Donc il a fallu rationaliser cette production improductive, puisqu'on ne connaissait jusque-là que l'artisanat. Et l'artisanat, vous faites des cuillères, elles existent. Ben, l'administration, vous remplissez un papier, on ne sait pas si ça existe ou pas. On pense que ce n'est pas un objet, je dirais, réel. Et donc là, il y a eu tout un système de mise en perspective, effectivement, d'un nouveau travail. Mais la question, c'est qu'être bureaucrate, c'est une chose, mais il faut y croire. Comment est-ce que vous pouvez le matin aller travailler dans un espace dans lequel on va vous dire « vous allez travailler pour l'État ». Déjà, il faut savoir ce que c'est que l'État. Jusque-là, vous avez travaillé pour le roi. Donc le roi, c'était une figure, c'était un personnage physique. Il avait des pouvoirs, il était thaumaturge, il avait tout ça, etc. Mais là, on se dit « comment on va faire ?» Et toute la question, donc, on voit les textes sous la Révolution française, ça a été de commencer à réussir à mobiliser les gens pour qu'ils viennent le matin. Comment on a fait ? Les gens ne se sont jamais posé la question de l'origine du bureau. Aller au bureau pour rien, ce n'est pas possible. Donc il faut y aller pour quelque chose. Y travailler pour qui ? Travailler pour l'État. Et cette bureaucratie, elle s'est développée avec notamment au moment de la Terreur, où au début de la Révolution française, on comptait 700 employés de l'État, et en 91, on en comptait 7000. C'est-à-dire que ça donne une idée de la montée de la bureaucratisation du monde, parce que les révolutionnaires avaient décidé de tout noter. Donc s'est développé d'ailleurs en même temps à cette époque-là les systèmes de notation, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été la question posée, qui est toujours la même question si vous lisez les journaux aujourd'hui, c'est comment faire venir les gens au bureau qui ne veulent plus venir. Surtout depuis le Covid, ils ne veulent plus venir. Donc on se retrouve à un état, au même niveau. Et en réalité, ce qu'on leur a proposé, on leur a dit « écoutez, vous allez être payés tous les mois ». Et non pas en assignat, mais en argent trébuchante et comptante. Et vous serez payé toujours la même chose. Jusque-là, les systèmes nobiliaires faisaient qu'on offrait parfois une petite providence à l'un et à l'autre quand on pensait à le payer, parce que ah oui, il a peut-être besoin de quelque chose, etc. Mais non. Et là, c'est donc devenu, ça s'est développé comme étant une référence absolue, c'est-à-dire en disant, tu te rends compte, il y a des endroits où on te paye régulièrement. Et puis ça a été de faire croire effectivement en l'État, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'État, pour qui on travaille. Donc il a fallu les convaincre encore plus, et ça a été l'invention, je le dis de façon très schématique, mais de la retraite, c'est-à-dire l'idée que quand vous aurez fini de travailler pour l'État, l'État continuera à vous payer. Alors ça, c'était une révolution dans les mentalités, on est en 1791. Jamais on n'avait pu imaginer que cessant de travailler, on allait continuer à être payé. Donc voilà que la bureaucratisation, le bureaucrate, prend finalement une renommée tout à fait extraordinaire. Et vous verrez que jusqu'au début du XXe siècle, jusque dans les années 50, devenir fonctionnaire était un anoblissement, en ce sens qu'on savait qu'on n'allait gagner pas une fortune, mais qu'on serait régulièrement payé. Et c'est ça qui a réussi à attirer les gens. Aujourd'hui, on retrouve la même question après le Covid, comment faire revenir les gens qui se sont mis au télétravail et leur dire de venir au bureau, et on voit que c'est très complexe. Et donc, ils essayent de réinventer des appâts, faire des fêtes de rentrée, faire des pots. Maintenant, on invente d'autres systèmes, c'est pour pouvoir rendre la vie de bureau plus agréable. L'idée, c'est de louer la maison de quelqu'un pour une journée. Et on peut aller jusqu'au bout, on peut même le louer le chat avec. C'est-à-dire que les gens vont se réunir en équipe chez quelqu'un d'autre, dans une maison qui est en vie, si je puis dire, et ils vont passer une journée exotique dans un espace qui n'a rien à voir avec le bureau. Alors ça se fait de plus en plus, comme le coworking, d'aller travailler dans des endroits voués à ça, où on loue sa place d'une certaine façon, et on n'a jamais la même place. Donc tout ça, ce sont des phénomènes de transformation extraordinaires.
Une question, justement, vous parliez à l'instant du coworking, du développement du télétravail. Est-ce que finalement l'ordinateur n'est pas devenu le bureau ? D'ailleurs, quand on ouvre son ordinateur, on appelle ça un bureau. Est-ce que finalement le bureau n'est pas devenu un objet qui se déplacent et qui, qu'on peut installer dans des espaces très différents.
Oui, mais la micronisation des systèmes informatiques a permis effectivement de se balader avec son bureau sous le bras. Et c'est vrai, quand on allume son ordinateur, on tombe sur le bureau. Et le bureau, c'est vrai, c'est l'ordi, puisqu'il est relié avec les autres. Et donc ça implique une façon tout à fait neuve aussi de travailler avec des archives, ou le fait que la mémoire ne nous appartienne plus, que les systèmes de classement ne sont pas les nôtres, appartiennent à l'ordinateur d'une certaine façon, et ça fait gagner un temps formidable, et en même temps, ça implique un rapport avec la machine particulier. Alors, le problème que pose effectivement le bureau informatique, si je puis dire, c'est que les systèmes administratifs se sont construits sur un système hiérarchique qui sont les hiérarchies intermédiaires. Et ce qui est en train de se produire, c'est que l'ordinateur, enfin je veux dire, squeeze les intermédiaires. Et ça, c'est un énorme problème parce que ça fait changer complètement les systèmes de relations à l'intérieur d'un bureau. On avait mis en place une hiérarchie. Ça a été très long de la mettre en place. Il a fallu Napoléon, il a fallu un système semi-militaire. Il a fallu commencer à inventer des grades dans les carrières. Donc tout ça, selon que vous étiez au poste, que vous étiez, je sais pas, aux finances, que vous étiez à d'autres endroits, vous étiez directeur, sous-directeur. Le sous-directeur avait lui-même un directeur qui était lui-même le chef d'un sous-directeur, etc. Et il y a des textes au 19e siècle extraordinaires, justement, sur la hiérarchie des systèmes bureaucratiques, où c'était d'ailleurs l'objectif, c'était de mettre toute une pyramide totalement... intransformable, et ça on l'a complètement intégré. Alors donc l'ordinateur arrive, et que vous soyez polytechnicien ou que vous soyez chaudronnier, vous allez trouver les mêmes informations sur Internet pour la construction d'une cuve nucléaire. L'un vous dira, quand vous étiez polytechnicien sans Internet, j'ai fait des études, je sais ce que c'est qu'une cuve pour le nucléaire, et l'autre vous dira, j'ai regardé sur Internet, je sais ce que c'est qu'une cuve pour le nucléaire. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a des approches maintenant des systèmes de savoir et de connaissances qui sont au même niveau. Donc comment on fait ? Et en ce moment, on est en train, c'est pour ça qu'on est complètement à côté de la question quand on parle du travail, enfin, etc. On parle du travail comme si on était encore au 19e siècle. En réalité, la relation au travail, elle a totalement changé. D'abord, on ne veut plus travailler dans le sens traditionnel où on l'entend. D'autre part, privé-public se mélange complètement. Et puis, ça va être aussi des systèmes d'information qui fait qu'on est plus ou moins, je dirais, élastique par rapport à ça. Donc, la position dans le système de production administrative, si je reprends le terme, se transforme. Et en ce moment, on est dans un système, ça m'intéresse beaucoup, vers un système ahiérarchique, c'est-à-dire où les compétences peuvent changer. Et prendre en main, par exemple, je reprends l'idée du chaudronnier. Donc il y a un CAP, notamment, de soudeur. Et le CAP de soudeur, en ce moment, ils n'arrivent pas à recruter. Et c'est un truc très important. Mais parce que le soudeur n'est plus un soudeur au sens traditionnel du terme, c'est un type qui va beaucoup plus loin que ça. Et donc, les compétences font qu'il peut y avoir des bons et des mauvais soudeurs. Ça, c'est toute une tradition. Jadis, c'était par famille ou par nom, etc. Et aujourd'hui, c'est par désir, par besoin, par volonté. Donc, l'origine de sa spécialisation n'est plus inscrite dans un système élitiste ou élitaire, si je puis dire. Donc ça, il faut remettre en question, notamment pour la France, nos systèmes élitistes où vraiment on essaye de faire d'une société où on est passé par les grandes écoles et puis l'université derrière, les IUT encore derrière, etc. C'est absurde parce que ça ne marche plus. Et puis en même temps, on est en train de rentrer dans un déritmage de notre système de production, c'est-à-dire que si vous êtes du matin ou si vous êtes de la nuit, vous pouvez bosser sur votre ordinateur pour votre bureau à préparer un dossier jusqu'à 2h du matin si ça vous plaît, et puis à 8h vous l'envoyez, s'il faut que le patron l'ait à 8h, vous faites un clic, vous l'embarquez là-bas, etc. Mais on essaye, et c'est ça qui est complètement extraordinaire, c'est que les bureaux essayent de garder la main mise sur ces troupes, et leur problème, c'est le contrôle. Comment est-ce que je vais contrôler qu'un tel est bien devant son bureau à 8h30? Qu'est-ce que ça peut lui foutre qu'il soit 8h30 ou 10h30, puisque le boulot va être fait? Et ça, on voit bien dans les négociations salariales, ça ne marche pas. Et je vois bien, parce qu'il y a pas mal de gens quand même qui commencent à partir en week-end assez longuement. Je ne sais pas, de Paris partir à Saint-Malo, rester 3 jours. Ils font leur boulot, il n'y a aucun problème. Sauf que si le patron apprend qu'ils sont à Saint-Malo, ouais, il est en récréation en réalité. Ben, le boulot est fait. Donc quel est le problème, puisqu'il y a effectivement, on peut déspatialiser le lieu de travail. Donc ça, c'est une notion tout à fait nouvelle. Alors, on retourne au Moyen-Âge, d'une certaine façon, parce qu'il faut se rendre compte que nous, on parle d'espace. Mais pendant très longtemps, l'homme du Moyen-Âge ne connaît pas l'espace. Il s'appelle le locus, le lieu. Et le lieu n'existe que par rapport à l'homme et à la façon qu'il a de pouvoir se déplacer et occuper ce lieu. Donc l'idée d'espace qu'on a, nous, elle est liée sur la conquête de l'espace, entre autres, hein, sur les transformations de la vision horizontale, machin, etc. Et là, c'est l'espace qui est en train de devenir autre chose, c'est-à-dire la distance n'existe plus. Réduction de la distance. Que vous soyez à New York ou à Londres ou à Saint-Malo, vous faites le même boulot, il suffit de l'envoyer. Mais
c'est du télébureau pour le coup.
Ben c'est du télétravail, télébureau, télétravail. Et je vois bien que les générations, les trentenaires, etc., ils font ça de plus en plus. Et d'ailleurs, ils se taisent sur leur lieu. Quand on leur demande alors, non, mais je suis là, oui, je suis là, il n'y a pas de problème. En fait, ils sont sur la plage. Peut-être pas en train de travailler, ils travaillent peut-être dans une chambre, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est en train de se transformer. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de pensée sur le non-travail, au sens, on va arrêter de travailler un jour, on n'est pas fait pour ça. Donc, on travaille pour bouffer, pour construire des choses, pour je comprends tout à fait, mais on n'est plus du tout dans la même obligation de dépendre d'un système construit par d'autres pour son propre fonctionnement, si je puis dire. Donc là, il y a une individuation, effectivement, du travail, et c'est vers ça qu'on va, je suppose. Question, voilà, qu'est-ce que ça sera demain ?
Les systèmes, par exemple, de protection sociale ont été construits aussi autour de cette organisation du travail liée au bureau. De fait, aussi, c'est toute cette question qui se pose aussi.
Alors ça, c'est une excellente question, parce qu'en réalité, depuis le Covid, il y a quelque chose qui s'est brisé. Je me souviens tout à fait des textes, je veux dire, concernant le bureau, etc. C'était la qualité de vie au travail, la QVT, la qualité de vie au travail. Et on en était arrivé avant le Covid, hein, c'est-à-dire on est en 2019, 2020, à poser la question dans les bureaux même, et ça commençait, il y en avait déjà à Bordeaux. Alors, on a commencé par les cantines, on a commencé à mettre le bio, on a commencé à imaginer tous les systèmes, effectivement, de meubles qui ont la forme du corps, je cherche le nom. L'ergonomie. Toute l'ergonomie était reposée, donc on avait tout un système. Parce que ça a été, je ne veux pas faire l'histoire de l'ergonomie, mais elle est formidable. Et donc, on se retrouve maintenant dans un confort absolu. Je veux dire, aller au bureau aujourd'hui, dans la majorité des cas, c'est aller dans un 4 étoiles, le lieu est lavé, nettoyé tous les jours, etc. De façon archétypale, hein, j'entends. Et en fait, après cette histoire-là, on s'est rendu compte qu'on en était au QVT, c'est-à-dire que les syndicats étaient en train de négocier les menus de la cantine. On négociait aussi le dormitorium, c'est-à-dire des endroits où on pouvait enfin faire la sieste. La question se repose aujourd'hui d'ailleurs. Mais donc oui, pourquoi pas faire la sieste au bureau? Si on a un bon capitalisme, il vaut mieux avoir des troupes qui soient rentables que des troupes qui soient fatiguées. Donc ça a été pris en compte, et les start-up aident énormément à cette question-là de désennuyer le travail. On peut faire du ping-pong quand on est fatigué, on peut aller dormir sur un sofa quand on en a marre, on peut regarder un film quand on estime qu'on n'en peut plus, etc. Et ça, c'est des choses apparemment permissives, mais qui sont en fait des recréations au sens presque religieux du terme, puisque récréation, ça vient des curés, hein. C'était l'idée de se recréer, de se reposer, etc. Et donc je pense que là, il y a aussi une relation au travail qui est en train de changer radicalement, à la fois d'un côté une perte de cette qualité de vie au travail, parce qu'on ne sait plus d'abord ce que c'est que d'aller au bureau, et on essaye de transformer l'absence, il y a toujours dans les sociétés comme ça, je dirais, catholique, en tout cas, cette espèce de mise en culpabilité des choses qui ne sont pas bien faites. Et donc, on essaye toujours de créer une culpabilité pour que le travailleur fonctionne effectivement avec ce système de punition possible, ce qui est absurde. C'est plus comme ça qu'on fonctionne. Donc, moi, je ne sais pas quoi dire de plus, mais en tout cas, on est dans une transformation radicale de la relation au travail, de la définition de cette frontière entre le public et le privé, entre le fait que travailler dans le privé, dans son privé, ou réintroduire le privé dans le travail, c'est des choses qui sont là, qui sont en route et qui sont en train de se transformer.
Prochain livre, quel sera-t-il ?
Alors là, je suis rentré dans un nouveau cycle, si je puis dire, où j'arrête les ouvrages, je dirais, de documentaires, enfin en tout cas d'érudition, et je suis en train de reprendre mes carnets de terrain d'ethnologue, terrain que j'ai fait il y a 40 ans ou 30 ans. Et donc mon prochain livre, j'ai repris ces carnets des années 80, où je suis en Californie, pendant pratiquement une année chez les marijuana farmers dans les forêts de Big Sur, voilà. Et donc ça s'appelle, puisque le livre existe, ça s'appelle California Dream, voilà. Ça paraît chez Métellier en septembre.
Quand vous étiez jeune, vous a amené à l'ethnologie, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Le regard, la passion du regard. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir ethnologue ?
En fait, au début, j'étais historien. J'ai fait des études d'histoire. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'ethnologie, ça a été une révélation absolue. C'est en accompagnant un copain s'inscrire à l'université dans les années 75. J'étais déjà en histoire à la Sorbonne. Et il s'est inscrit en sciences de la Terre. Et le bureau d'à côté pour les inscriptions, c'était ethnologie. Et ça s'est imposé comme une évidence. J'ai toujours voulu faire ça. Je crois que je n'avais jamais lu un livre d'ethnologue, sinon Tristotropique de Lévi-Strauss. Mais je me suis inscrit recto en disant « Mais oui, c'est ça que je veux faire, c'est être ethnologue. » Et j'ai inventé cette ethnologie, j'ai découvert toutes les problématiques, etc. Et là, j'ai été vraiment... Je savais que je serais ethnologue. C'est ce qui s'est passé, quoi.
Et quelle est justement la spécificité de l'ethnologue voilà. Qu'est-ce que cette... particularité, enfin cette pratique particulière ?
Alors l'ethnologue, il a une supériorité par rapport aux autres, je dirais, c'est que notre vie, c'est très littéraire dans un certain sens. Moi, mon travail consiste à ne rien faire avec application avec les autres, voilà. C'est-à-dire aller dans des sociétés et essayer de comprendre comment la vie quotidienne s'organise. Donc je ne rien faire, puisque voir comment les gens vont fonctionner dans les relations de consommation, de production, d'invention, tout ce qu'on veut. Et en même temps, d'être extrêmement attentif, parce que notre problème quand on va dans une autre culture, c'est qu'on n'arrête pas de faire des bévues, on est toujours en train de faire le mauvais geste. Imaginez par exemple que je vous souris, ce qui vous paraît normal. Mais par contre, si vous vous retrouvez chez les Indiens Piaroa et que vous commencez à sourire aux Indiens, ils sont persuadés que vous allez les bouffer parce que vous montrez vos dents. Il n'y a qu'un animal qui montre ses dents, qui veut bouffer quelqu'un. Eux ont plutôt, soit ils ont perdu leurs dents parce qu'avec la canne à sucre, elles tombent assez facilement, ou alors ils se noircissent les dents pour ne pas agresser l'autre. Donc vous croyez que vous allez les séduire, en réalité vous les menacez. Et ça peut aller très loin. J'ai un ami ethnologue, il allait être fléché, il a été obligé de partir. Enfin, ils se sont dit, il veut vraiment nous bouffer, quoi. Et donc ça pose des problèmes comme ça. Je trouve ça merveilleux parce que vous êtes tout le temps dans cette question de savoir comment vous pouvez être dans un espace sans en détruire l'harmonie et en même temps d'essayer d'en saisir la réalité dans son fonctionnement. Alors c'est mille petites choses. C'est par exemple si vous bossez chez des Turkmanes, ils vont habiter une yourte et la yourte, il ne faut jamais rentrer avec la main devant parce que vous faites rentrer les mauvais génies qui se planquent dans votre main et qui rentrent en cachette. Donc il faut toujours rentrer les mains le long du corps pour ne pas risquer de mettre en déséquilibre l'harmonie du lieu, etc. Donc petit à petit, c'est des tout petits gestes comme ça. Ça va être, par exemple, je vous disais, on ne sourit, société où on ne sourit pas. Et pour séduire, on flaire, c'est des sociétés à flaire. Et donc on raconte quelque chose que moi, je serais incapable de faire, le fameux baiser esquimau, des choses comme ça. Mais ça existe dans la réalité. Donc moi c'est ça qui me plaît infiniment.
L'infinie variété de l'humanité.
Et toujours cette question effectivement d'être à côté, c'est ça. Et donc l'ethnologie, elle est du côté des surréalistes, et c'est logique. Je veux dire, la surréalité de la vie de l'autre, elle vous saute aux yeux puisque vous n'êtes plus chez vous, mais il ne faut jamais oublier que vous-même, vous êtes un véhicule d'un exotisme particulier où vous allez vous exprimer d'une façon tout à fait incroyable, quoi.
Eh bien, merci, Pascal Divy, pour cet entretien au pied levé. Comme on dit, on dit ça comme ça, au pied levé, donc, à Saint-Malo, à l'occasion du festival Étonnant Voyageur. Merci à vous.
Merci à vous.